Pierre Boistard est né le 21 novembre 1938. Il est ingénieur agronome. Il est directeur de recherche à l'INRA, au laboratoire de biologie moléculaire des relations plantes-micro-organismes CNRS. Il est président, il préside la section 27 du comité national du CNRS. Il est spécialisé dans la réplication des bactériophages à RNA, la génétique et la biologie moléculaire des bactéries interagissant avec les plantes, les relations plantes-micro-organismes, la régulation de l'expression génétique chez les procaryotes et la physiologie de la fixation de l'azote. Ses publications, il a rédigé en collaboration avec de nombreux articles dans des revues spécialisées. On pourra vous énumérer ces revues si vous nous appelez à la mission ou si vous le désirez. Sur Internet, on vous le transmettra. Il est membre du comité de rédaction de la revue Research in Microbiology. Je vous laisse la parole, Monsieur Boistard.
Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur Yves Michaud et les membres du comité d'organisation de l'Université de tous les savoirs de m'avoir donné l'occasion de rassembler quelques-unes de mes convictions pour essayer de vous les faire partager. Convictions que j'ai acquises au cours d'un parcours, comme il a été dit, dans la recherche agronomique, parcours qui est contemporain du développement massif des techniques de génie génétique. Alors, vous avez eu déjà des conférences, en particulier de M. François Jacob, et on doit à ces personnes-là d'avoir pu développer toutes ces nouvelles techniques d'études du vivant. Donc, expertise scientifique et débat démocratique, l'actualité récente montre une forte attente de la société vis-à-vis d'une expertise scientifique qui permette de prendre des décisions opportunes face à des risques qui sont ressentis de façon de plus en plus aiguë. Alors, ce sont des risques notamment dans le domaine de l'environnement, de l'alimentation, de la santé, ou encore des décisions pour corriger les effets d'une évolution plus ou moins probable. Qu'on pense par exemple au problème de la vache folle due à l'ESB, au problème des plantes transgéniques dont je parlerai un peu plus longuement, ou le problème du réchauffement de la planète. L'expertise scientifique est sollicitée lorsqu'une prise de décision nécessite d'être instruite, appuyée sur des connaissances qui ne sont pas des évidences. Lorsque les connaissances énoncées deviennent des évidences, on n'est plus dans un processus d'expertise. Là, je me permets de renvoyer un livre de Philippe Roqueplot, Entre savoir et décision, l'expertise scientifique, qui a paru en 97 aux éditions de l'INRA. L'expertise est un processus au cours duquel se construit la réponse à une question, ou au cours duquel sont rassemblés les éléments de réponse à une question. Donc l'expert est celui qui accepte d'apporter ses compétences au service de la construction d'un savoir qui n'est pas encore disponible. Si maintenant on se tourne vers l'objectif de l'expertise, vers l'objet de l'expertise, ce pourquoi l'expertise est commandée, on s'aperçoit que les décisions à prendre impliquent le plus souvent des choix entre des valeurs contradictoires et doivent trancher des conflits d'intérêts. Le débat démocratique, lui, repose sur la reconnaissance de la légitimité des différences de point de vue. Ici, je prends le mot « point de vue » dans son sens façon dont une question est abordée, plutôt qu'au sens d'opinion particulière. Donc le débat démocratique repose sur la reconnaissance de la légitimité des différences de point de vue, des poids relatifs que l'on donne à tel ou tel aspect d'un problème, suivant la place que chacun occupe dans la société, sa philosophie, son échelle de valeurs. Mais le débat démocratique doit nécessairement aboutir à une décision admise et acceptée par tous. Il faut donc que le débat permette un rapprochement des échelles de valeurs des citoyens, ou au moins l'acceptation de leur remise en cause. Et l'expertise scientifique peut être un élément dans un processus d'élaboration d'une décision qui soit acceptée par le corps social. Nous constatons que, du fait de la complexité croissante des situations rencontrées, la décision finale est de plus en plus influencée par l'information fournie par le processus d'expertise. Mais pour que cette décision soit acceptée, il faut que le processus d'expertise lui-même soit approprié, accepté par le citoyen. Sinon, le débat d'experts va se substituer au débat démocratique et les conclusions des experts apparaîtront comme des contraintes supplémentaires qui s'imposent et qui dictent la décision des politiques. Souvent, les décisions sont suspendues aux opinions des experts et non plus tellement à des choix politiques. Et on s'aperçoit, les politiques apparaissent alors comme soumis d'une part aux contraintes de l'économie, d'autre part aux impératifs de prévention des risques déterminés par les experts, et les experts pouvant intervenir aussi, par exemple, pour définir les contraintes économiques. Et on a vu récemment que lorsqu'au contraire, un gouvernement assume ses responsabilités en prenant une décision qui n'est pas strictement dictée par le verdict des experts, je pense à la décision de suspendre l'importation du bœuf britannique récemment, on s'interroge sur les arrière-pensées possibles de ce gouvernement. L'idée que je voudrais illustrer ici, c'est que la substitution du débat d'experts au débat démocratique se produit parce que le processus d'expertise demeure étranger au public, aux citoyens. La démarche d'expertise qui a conduit à l'avis final n'est pas communiquée, seul l'est le résultat. L'expertise devient un produit fini qui est livré sans indication de son mode de fabrication. Donc ce que je voudrais développer aujourd'hui, c'est que pour que l'expertise scientifique puisse alimenter le débat démocratique, il faut que le processus lui-même et non plus seulement son résultat soit accessible au public. Et de cette façon, je pense que le citoyen s'apercevra que la pluralité des points de vue qui nourrit le débat démocratique est déjà présente au cœur du processus d'expertise, mais que cette pluralité permet une meilleure perception d'une réalité complexe. Je voudrais suggérer aussi, dans une deuxième partie, que le processus d'expertise est un moyen privilégié de rapprocher la science du citoyen, de rendre accessible la démarche scientifique elle-même et non plus seulement ses résultats. Et je pense que grâce à cette plus grande proximité entre la démarche scientifique et la société, cette démarche scientifique pourrait elle-même, cette démarche scientifique qui nourrit le processus d'expertise, pourrait en quelque sorte irradier, inspirer le débat démocratique. Donc dans une première partie, je voudrais montrer que le débat est déjà présent au cours du processus d'expertise et qu'il lui en est même constitutif. Et pour cela, je voudrais prendre l'exemple de la culture des plantes transgéniques, question qui a été souvent posée récemment aux experts. Et à mon avis, cette question illustre bien la nécessité d'aborder une réalité sous différents angles. Et aussi, elle illustre le fait que les experts sollicités vont dans un premier temps donner des réponses différentes, d'abord en raison de leur propre discipline scientifique. C'est ce qu'exprime Pierre-Henri Gouillon, directeur du laboratoire d'écologie systématique et évolution du CNRS à l'Université Paris-Sud, dans des propos qui ont été rapportés par le journal La Croix le 16 et 17 octobre 1999. Et dans cette... ce qu'il dit, c'est « Les scientifiques, de leur côté, ne sont pas de pure neutralité. Ils appréhendent différemment le problème selon leur spécialité. Tout dépend d'où ils parlent, Schématiquement, même si cela n'est pas toujours vrai, les biologistes moléculaires voient plus le progrès que l'on peut attendre de cette nouvelle technique d'intervention sur le vivant qu'est la transgénèse, c'est-à-dire la propriété, conférer de nouvelles propriétés génétiques à des organismes vivants, alors par exemple que les experts en écologie sont moins enthousiastes face à l'essor des cultures transgéniques. Et il termine, une bonne expertise doit donc être à la croisée des différentes disciplines. Les biologistes moléculaires voient dans les organismes génétiquement modifiés par transgénèse une possibilité nouvelle d'accroître la résistance, par exemple, des plantes aux maladies ou aux organismes ravageurs, tels que les insectes ou les nématodes. Les nématodes sont des petits vers qui attaquent les plantes, entre autres, et de diminuer les nuisances des mauvaises herbes. On a calculé, par exemple, que pendant la période 1991-1993, pour les principales productions mondiales, les pertes dues aux maladies, aux ravageurs et aux mauvaises herbes étaient de 42% par rapport aux récoltes potentielles. Alors même qu'on a pu obtenir une réduction de près de la moitié de ces pertes grâce aux traitements phytosanitaires. La biologie moléculaire est d'abord un outil pour comprendre les mécanismes par lesquels les micro-organismes peuvent causer une maladie chez une plante. Je prendrai pour exemple une bactérie qui s'appelle Ralstonia solanacearum. C'est une bactérie qui est étudiée dans notre laboratoire et qui cause un flétrissement sur de très nombreuses plantes. Elle interdit par exemple la culture de la pomme de terre dans certaines régions du globe où elle est présente à l'état endémique. Alors la première diapositive montre les symptômes causés par cette bactérie sur des bananiers. Vous voyez donc un flétrissement de la plante qui aboutit éventuellement à la mort complète de la plante. Nos études ont montré que la bactérie possède un système de sécrétion. Alors, ceci est montré sur la prochaine diapositive. Voilà. Donc, ici, vous avez très schématiquement, et je m'excuse, le texte est en anglais, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Donc, voici ici la bactérie, et voici la cellule de la plante. Et ce que les études de mes collègues au laboratoire ont montré, c'est qu'un des deux chromosomes de la bactérie, cette bactérie comprend deux chromosomes, contient une région génétique, un ensemble de gènes, qu'on appelle le cluster HRP. Et ces gènes sont responsables de la synthèse d'un appareil de sécrétion, qu'on voit ici à la surface, très schématiquement représentée à la surface de la bactérie, qui va permettre l'injection dans la cellule végétale d'un certain nombre de produits, dont certains sont des produits, par exemple ici les harpines ou la protéine POPA, sont des produits qui sont toxiques pour la plante et qui vont faciliter la progression de la plante, de la bactérie dans la plante. Donc, un des aspects que la biologie moléculaire va permettre d'étudier, c'est la relation entre ces produits et la plante, et on peut espérer de cette façon-là, en modifiant la plante et les cibles de ces produits dans la plante, rendre les plantes plus résistantes à la bactérie. D'autres produits, qui sont les produits de gènes qu'on appelle les gènes AVR, vont être reconnus par certaines structures de la plante, les produits des gènes de résistance, et déclencher des réactions de défense chez la plante. Et par les techniques de biologie moléculaire, par exemple, un collègue de notre laboratoire a pu identifier la localisation exacte sur les chromosomes de la plante d'un gène de résistance, de le cloner par les techniques de génie génétique, de séquencer la structure, d'obtenir la séquence de la structure du gène, Donc voici ici, simplement pour illustrer la résistance conférée par ce gène à la petite plante qui est maintenant devenue une plante modèle pour beaucoup de biologistes moléculaires végétaux qui s'appelle l'Arabette ou Arabidopsis thaliana. Donc ce qu'on voit ici, c'est une plante qui contient dans son patrimoine héréditaire le gène de résistance et ici une plante d'un autre écotype d'Arabidopsis qui est sensible à la maladie. Donc ce collègue a pu déterminer la séquence du gène qui rend la plante résistante et la structure de ce gène est montrée dans la diapositive suivante. Et alors, un des résultats les plus fascinants récents de la biologie moléculaire et de l'étude des génomes, c'est qu'en fait, les gènes sont composés par une mosaïque, en fait. Les gènes sont des chimères. Et on trouve dans un gène des éléments qu'on retrouve dans d'autres gènes, et ceci permet de prévoir les fonctions qui sont portées par chacun des éléments de ce gène. Ainsi, quand on regarde la structure de ce gène, ici, c'est dans l'écotype résistant, ici, pardon. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce gène comprend deux grandes parties. Une partie à gauche qui ressemble à un autre gène de résistance qui rend les plantes résistantes à un champignon. Et à droite, une partie qui ressemble à ce qu'on appelle un activateur transcriptionnel, c'est-à-dire une protéine qui permet l'expression, l'activation d'une partie des gènes, donc qui va permettre l'expression de ce qu'on appelle un phénotype. Et dans la partie, par contre, qui ressemble à un gène de résistance, on trouve aussi différents domaines qui vont nous permettre de prédire les fonctions de ces différentes parties du gène et avec quelles protéines de la plante, éventuellement, les protéines codées par ces différentes parties du gène vont pouvoir interagir et provoquer la réaction de la plante qui va la rendre résistante à la maladie. Par exemple, on trouve à gauche, là, dans cette région, quelque chose qui est très intéressant, puisque, en fait, c'est une région qui, dans d'autres organismes, contrôle l'immunité cellulaire, par exemple, même chez les insectes. Et on voit que les plantes et les insectes ont des propriétés génétiques communes qui sont impliquées dans leur résistance à différentes agressions. Donc, en connaissant la structure de ces gènes, on va pouvoir espérer rendre les plantes plus résistantes à ces micro-organismes pathogènes, mais on va aussi pouvoir, par les techniques de génie génétique, transférer un gène de résistance d'une plante à une autre et ainsi la rendre résistante aussi à d'autres micro-organismes pathogènes. On a pu déjà, grâce à ce genre de technique, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, rendre des plantes, par exemple, résistantes à des virus ou même à des insectes en faisant fabriquer par les plantes des toxines qui tuent les insectes ravageurs. Un autre domaine dans lequel la biologie moléculaire est susceptible d'apporter des améliorations pour l'agriculture est celui de la résistance aux herbicides. Les mauvaises herbes provoquent des diminutions significatives du rendement et les herbicides sont le moyen le plus efficace de lutter contre elles. Les herbicides sélectifs permettent de détruire les mauvaises herbes en respectant la plante cultivée, mais ils sont coûteux, d'un emploi délicat et d'une efficacité limitée. Le génie génétique a permis de construire des plantes de grande culture, par exemple le colza ou le soja, qui sont ces plantes ont été construites pour être résistantes par génie génétique à des herbicides totaux. C'est-à-dire qu'on a des herbicides qui détruisent l'ensemble des mauvaises herbes, mais si on rend les plantes de grande culture comme le soja ou le colza résistantes à ces herbicides, on va pouvoir traiter un champ par l'herbicide et seule la plante cultivée va résister. Alors, on a par exemple dans la diapositive un essai de traitement aux herbicides. Alors ceci, c'est la plantation de colza dont certains sont résistants à une substance herbicide totale qui est le glufosinate. Et ceci est avant le traitement aux herbicides. Après traitement aux herbicides, on voit, donc de façon, pas besoin de commentaires, mais ici on voit les plantes qui sont résistantes aux herbicides et ici les sojas sensibles avec dedans des colzas résistants, quelques colzas résistants et ici là, l'ensemble des colzas qui sont résistants à l'herbicide. Alors, il y a toutefois un problème dans ces applications auquel le biologiste moléculaire risque de ne pas être attentif, c'est celui de la durabilité des solutions qu'il propose. Le biologiste moléculaire va proposer un produit qui est soit une plante résistante à une maladie, soit une plante résistante à un herbicide, mais que va devenir cette plante quand elle va être cultivée, quand elle va être mise dans un écosystème naturel ? Dans le cas des plantes transgéniques résistantes à des organismes pathogènes, la plante génétiquement modifiée va constituer une composante modifiée d'un écosystème et toute modification génétique d'une composante de cet écosystème va entraîner une réponse de l'ensemble et notamment une réponse des organismes pathogènes. Dans la population d'organismes pathogènes, va s'opérer une sélection des individus capables d'attaquer les plantes transgéniques initialement résistantes. Alors c'est ici qu'interviennent les généticiens des populations, qui eux sont confrontés depuis longtemps à ce problème lors de l'introduction de gènes de résistance dans des plantes cultivées par les méthodes génétiques traditionnelles. Donc, sur cette diapo, on voit ce qui se passe quand on cultive des plantes résistantes à la rouille jaune du blé. Alors, ici, par exemple, on voit le pourcentage de plantes cultivées qui possèdent une résistance donnée, un gène de résistance particulier à la rouille jaune. Donc, on voit, il y a différents gènes, par exemple YR7, qui en 84 représentait pratiquement 20% des cultures, puis on a cessé de cultiver cette variété. Par contre, les variétés qui contenaient le gène de résistance YR6 ont été cultivées à partir de 84-86, et puis de même YR9, mettons, à partir de 88. Et alors, cette diapositive m'a été communiquée par une collègue de Grignon, Claude Pop. Dans la figure du bas, on a représenté les micro-organismes, la rouille, le pourcentage d'individus dans la population qui possèdent des gènes capables de surmonter la résistance de la variété de blé. Et donc, par exemple, le gène V7 de la rouille permet de surmonter la résistance YR7, le gène V6, la résistance YR6, et le gène V9, la résistance YR9. Et ce qu'on constate, c'est que quand on cesse de cultiver la variété YR7, le pourcentage de micro-organismes pathogènes qui ont la propriété de s'attaquer à ces plantes résistantes diminue dans la population. Par contre, et quand on commence à publier, à cultiver YR6, on voit qu'il y a une très grande sensibilité de la réponse du pathogène à la culture de cette plante résistante, puisque tout de suite, il y a une explosion des individus qui sont capables de l'attaquer. Et ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on diminue la culture de ces variétés résistantes, on diminue aussi le pourcentage de micro-organismes capables de les attaquer. Par contre, pour le gène YR9, on voit que la proportion d'individus de micro-organismes pathogènes capables de les attaquer ne diminue pas. Autrement dit, dans le cas de ce gène YR9, quand on l'introduit dans la population, on modifie de façon stable, durable, la population des micro-organismes pathogènes contre lesquels on voulait lutter. Donc on a modifié de façon stable l'écosystème. Donc les généticiens des populations vont pouvoir évaluer la valeur de l'introduction de gènes de résistance. Alors là, c'est par les méthodes naturelles, mais on peut avoir le même problème donc, par les méthodes de génie génétique. Et vont donc mettre en garde, enfin, ou en tout cas, attirer l'attention sur les modifications des populations de pathogènes ou de ravageurs contre lesquels on voulait lutter. Dans le cas de la résistance aux herbicides, c'est l'emploi qui est rendu possible par les plantes résistantes aux herbicides, donc l'emploi possible des herbicides totaux, qui va modifier l'écosystème dans ce cas-là, en sélectionnant l'apparition de mauvaises herbes résistantes. Un mécanisme privilégié pour l'apparition des mauvaises herbes résistantes consiste dans l'échange de gènes entre la plante cultivée et la mauvaise herbe. Ces flux de gènes sont un des mécanismes cruciaux dans la génétique des populations. Alors, dans la prochaine diapositive, vous avez ici un champ de betteraves cultivées et au premier plan, vous avez des betteraves mauvaises herbes, alors que la betterave cultivée est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle ne produit des graines que tous les deux ans. Ces betteraves mauvaises herbes, elles sont des plantes annuelles, donc elles produisent des graines dès la première année. Et en utilisant les méthodes de la génétique moléculaire, on a pu montrer que, en fait, ces betteraves mauvaises herbes étaient certainement le produit d'une hybridation naturelle entre les betteraves cultivées et des betteraves sauvages qu'on trouve dans les régions où on cultive les betteraves pour leur faire produire des semences. Donc ça veut dire que ces flux de gènes sont possibles et qu'il y a des échanges entre les betteraves de gènes, entre les betteraves mauvaises herbes et les betteraves cultivées, donc qui vont rendre possible éventuellement le transfert des gènes de résistance aux herbicides depuis les betteraves cultivées vers les betteraves mauvaise herbe. Donc dans ces deux exemples, les points de vue différents des biologistes moléculaires et des généticiens des populations, pour parler schématiquement, permettent d'alimenter le débat sur l'utilité de ces nouvelles technologies de manipulation de débat, du vivant, pardon. À ce débat, vous allez parler après de manipulation du débat, mais ce n'est pas un débat démocratique dans ce cas-là. À ce débat, donc, vient s'ajouter la prise en considération du principe de précaution qui s'applique dans ce cas aux risques potentiels introduits notamment par l'utilisation de la résistance aux antibiotiques pour la production de plantes transgéniques ou par les modifications non prévues du métabolisme de la plante conduisant éventuellement à l'apparition de métabolites toxiques. Donc, non seulement l'utilité de ces techniques de génie génétique doit être discutée par les experts, évaluée, mais aussi les risques éventuels introduits par ces techniques. Bon, simplement une petite citation pour le principe de précaution qui a été défini dans différents textes juridiques, principe selon lequel l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et irréversible à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Il est intéressant de noter ici que le rôle de l'expertise se transforme. Il ne s'agit plus de renseigner uniquement sur l'utilité d'une technique, mais aussi sur ses risques, comme je disais tout de suite. Utilité, un autre aspect maintenant à introduire, utilité et risque ne sont pas les seuls critères à prendre en compte pour que le débat des experts puisse nourrir le débat démocratique. En effet, L'introduction de nouvelles techniques n'a pas seulement un impact sur l'environnement de l'homme et sur sa consommation, elles interagissent plus ou moins fortement avec les structures culturelles et spirituelles de la société. C'est ainsi que vont intervenir dans le débat les anthropologues, qui vont attirer l'attention sur les résonances profondes que vont déclencher dans notre système de valeurs les manipulations génétiques des végétaux cultivés. Ici, je voudrais citer des recherches récentes qui sont discutées par Jacques Covin dans un livre « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture, la révolution des symboles au néolithique » et qui suggèrent que l'apparition de l'agriculture au néolithique a été précédée par une révolution des symboles, vraisemblablement le signe d'une révolution dans la mentalité religieuse des populations de cette époque de 9500 avant Jésus-Christ. Jacques Covin écrit « Ce que nous voyons poindre pour la première fois au Levant, au Moyen-Orient, autour de 9500 avant Jésus-Christ, dans un contexte économique de chasse-cueillette encore inchangé, mais juste à la veille de son bouleversement complet, sont deux figures symboliques dominantes, la femme et le taureau, qui conserveront la vedette durant tout le néolithique et l'âge de bronze orientaux. Pour Jacques Covin, cette apparition de la femme dans la représentation qui précède immédiatement la révolution néolithique signifie une nouvelle religion avec une divinité à forme humaine. Par cette nouvelle religion, l'homme, d'une certaine manière, se reconnaît dans tout ce qui l'entoure, puisqu'un principe unificateur personnifié réconcilie au niveau de leur genèse symbolique l'homme empirique et la nature qu'il affronte. Alors, avec les religions révélées qui arriveront plus tard, ce principe unificateur de l'homme empirique et de la nature qu'il affronte est le créateur qui crée et l'homme et la nature. C'est dire combien les rapports de l'homme à l'agriculture sont constitutifs de sa représentation du monde et de son univers religieux, et combien les changements accélérés qui s'opèrent sous nos yeux dans l'agriculture bouleversent la façon dont l'homme se situe dans son univers. Avec les manipulations génétiques et l'instrumentalisation du vivant, le lien entre l'homme et la nature, représenté dans l'univers religieux de l'homme, est profondément transformé de façon consciente et rapide. Et je pense que la nourriture de l'homme, la nourriture quotidienne, me semble constituer ce lien, donc de façon quotidienne, entre l'homme et la nature, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'alimentation et les problèmes des aliments transgéniques est quelque chose d'aussi sensible dans la société actuelle. Donc, les différents points de vue illustrés ci-dessus vont nourrir le débat démocratique, et la prise de décision politique sur l'autorisation de la culture de plantes transgéniques, d'autant plus qu'ils ont des correspondances dans les échelles de valeurs et les sensibilités politiques et philosophiques des citoyens. Ils donneront une légitimité à ces différences de sensibilité et d'échelle de valeurs. Ainsi, l'opinion des biologistes moléculaires favorables aux manipulations génétiques trouvera-t-elle un écho auprès de la fraction de la population la plus attachée au progrès technologique? Et à l'inverse, enfin, ou à l'opposé, si vous voulez, il n'est pas sans signification que l'écologie désigne à la fois une discipline scientifique, mais aussi une sensibilité politique. On peut s'interroger pourquoi ce sont les biologistes moléculaires qui, en général, sont favorables à l'utilisation des organismes génétiquement transformés. Je pense que leur discipline elle-même, qui a pour objet l'identification du support moléculaire de l'hérédité et des mécanismes par lesquels l'information génétique est traduite par des caractères physiologiques, les préparait à cette instrumentalisation des organismes vivants que constitue le génie génétique. Mais il a fallu que cette science invente aussi les outils adaptés. Par exemple, dans le monde végétal, ces outils sont des dérivés, des retombées de recherches très fondamentales sur une bactérie capable d'injecter une partie de son ADN à la plante qu'elle infecte. Donc, tout autant que la discipline elle-même, c'est le développement technique qui l'accompagne, qui influence les chercheurs de cette discipline en les rendant favorables à la manipulation du vivant. Une des raisons en est sans doute que les développements techniques ont conduit à la constitution d'un complexe scientifico-industriel tissé de multiples liens intellectuels et financiers, donc entre le milieu de la recherche et l'industrie. Ceci n'a pas toujours été vrai, puisque Jacques Monod, dans son livre La philosophie du hasard et nécessité, concluait son essai par un éloge de l'éthique de la connaissance, et il prenait ce mot d'éthique de la connaissance dans le sens qu'elle définissait une valeur transcendante, la connaissance vraie, et propose à l'homme non pas de s'en servir, mais désormais de la servir par un choix délibéré et conscient. Autrement dit, l'activité de l'homme au service de la connaissance et non pas la connaissance au service de l'activité de l'homme. Donc, si seules les conclusions des débats des experts sont communiquées aux citoyens, le débat démocratique diffractera ces conclusions suivant les sensibilités de chacun, ses intérêts, sa place dans la société. Le débat démocratique, s'il a lieu, reflétera surtout le terrain dans lequel l'information est reçue. La richesse de l'information fournie par le processus d'expertise lui-même sera perdue. Au contraire, si l'information transmise aux citoyens essaie de rendre compte des débats des experts et de la pluralité de leurs points de vue, et nous avons vu cette pluralité de points de vue, par exemple dans le domaine de la culture des plantes transgéniques, chaque citoyen devra lui faire lui-même sa propre synthèse en confrontant sa propre vision avec l'ensemble des informations fournies par les experts. La richesse de l'information transmise entraînera une plus grande richesse de réaction de chacun, et la nécessité pour chacun d'élaborer sa propre synthèse à partir d'une information multiple l'amènera à adopter lui-même une plus grande diversité de points de vue et à accepter plus facilement la remise en cause de ses propres visions, voire de son échelle de valeur. Un bon exemple de cet essai de communication vers les citoyens du débat des experts lui-même et non pas seulement de leurs conclusions, est la conférence des citoyens, du type notamment de celle qui a été organisée en France sur les organismes génétiquement modifiés en juin 1998. Alors j'ai essayé de représenter ça de façon très très naïve et schématique. Je ne sais pas si on voit, voilà. Donc vous avez d'un côté les experts qui débattent entre eux, de l'autre côté les citoyens, et ici les experts transmettent aux citoyens la conclusion unique, synthétisée, de leur débat. Et à ce moment-là, les citoyens, chaque citoyen réagit en fonction de ce qu'il est, de ses propres convictions, et sa réaction sera unique. Au contraire, dans le deuxième schéma, si c'est le débat des experts lui-même qui est transmis aux citoyens, chaque citoyen recevra toute une richesse d'informations et réagira de même par une plus grande variété de réactions et de points de vue, ce qui, me semble-t-il, devrait permettre le rapprochement des points de vue des différents citoyens et donc la constitution d'un consensus au sujet d'un problème débattu. Bon. Évidemment, se pose, pour que ces débats de citoyens puissent avoir lieu, pour que la communication de ces débats d'experts puisse être communiquée aux citoyens, se pose alors la question des moyens de transmission et on voit ici le rôle que la presse, la télévision et les nouveaux moyens de communication pourraient jouer dans cette transmission du débat, du processus d'expertise en direction des citoyens. La découverte de ces correspondances entre systèmes de valeurs et points de vue scientifiques donc, peut amener le citoyen à reconsidérer ses propres jugements comme des étapes dans une démarche d'appréhension de la réalité. La démarche scientifique considère comme légitime la diversité des points de vue. Elle la considère même comme indispensable à l'avancée de la connaissance. Paul Valéry disait « un point de vue est toujours faux ». Mais elle ne s'arrête pas à cette diversité et elle vise l'universel dans la nécessité des lois qu'elle formule. Donc je voudrais, dans une deuxième partie rapide de mon exposé, suggérer que l'expertise scientifique peut être un moyen efficace de rendre la démarche scientifique plus proche du citoyen. Je voudrais montrer que par l'intermédiaire de l'expertise scientifique, ce ne sont pas seulement les résultats de la démarche scientifique qui, comme nous l'avons vu, nourrissent le débat démocratique, mais que c'est la démarche scientifique elle-même qui peut transmettre ses valeurs au débat démocratique et à la vie de la société. Un premier point qu'il faut souligner ici, c'est que la démarche scientifique n'est pas de nature fondamentalement hétérogène par rapport aux opérations les plus immédiates, les plus quotidiennes, d'appréhension de la réalité. Je cite encore Jacques Monod dans « Le hasard et la nécessité ». Pour lui, la stratégie fondamentale de la science dans l'analyse des phénomènes, c'est la découverte des invariants. Toute loi physique, comme d'ailleurs tout développement mathématique, spécifie une relation d'invariance. Les propositions les plus fondamentales de la science sont des postulats universels de conservation. Conservation des lois, conservation de la matière, de l'énergie, etc. Il est facile de voir, dans tout exemple qu'on voudra choisir, qu'il est en fait impossible d'analyser un phénomène quelconque en termes autres que ceux des invariants conservés par ce phénomène. Or, l'appréhension de la réalité la plus immédiate, ce que nous faisons tous les jours, ce qui nous est constitutif dans notre perception, elle repose, elle aussi, sur l'existence d'invariants, sur des associations stables entre les constituants de nos perceptions, sans lesquelles nos simples perceptions seraient impossibles. Je cite ici un passage peut-être un petit peu difficile de la critique de la raison pure de Kant, mais qui me semble intéressant de ce point de vue, et il dit ceci. Si le cinabre, qui est le sulfure de mercure, c'est le minerai, était tantôt rouge, tantôt noir, si un homme se transformait tantôt en un animal, tantôt en un autre, si dans un long jour la terre était couverte tantôt de fruits, tantôt de glace et de neige, mon imagination empirique ne pourrait jamais trouver l'occasion de recevoir dans la pensée le lourd cinabre avec la représentation de la couleur rouge, ou si un certain mot était attribué tantôt à une chose, tantôt à une autre, ou si la même chose était appelée tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans qu'il y eût aucune règle déterminée à laquelle les phénomènes fussent soumis par eux-mêmes, aucune synthèse empirique de la reproduction ne pourrait avoir lieu. Autrement dit, si les choses elles-mêmes n'étaient pas dans leur structure, n'étaient pas constituées par des associations stables, par des invariants, nous n'aurions aucune perception de la réalité. Et ça, ça veut dire que la démarche scientifique, qui elle aussi s'attache à la découverte de ces invariants, elle a au fond la même motivation profonde, la même dynamique que notre propre perception, et que donc la démarche de la recherche scientifique n'est pas aussi éloignée que ça nous avons peut-être trop tendance à considérer. Et Maurice Clavel, qui commente dans un très, très beau livre qui est la critique de Kant, commente ce passage en disant « La science n'est possible et fondée que si elle bénéficie à titre de connaissance de ce raisonnement a priori en vertu duquel la simple perception nécessite en sa texture pour nous apparaître l'entendement ou du moins un ordre des lois, des règles et unifiées ensemble. » Donc il me semble que ce rapprochement possible entre la démarche de notre perception et la démarche scientifique va pouvoir nourrir alimenter même la façon dont nous allons mener notre débat démocratique. Il me semble que c'est dans le processus d'expertise que cette démarche d'appréhension de la réalité par la science peut être le mieux perçue du public. Dans le processus d'expertise, en effet, il y a une question posée, une urgence qui est bien perçue par le public. Est-ce qu'il faut manger des plantes transgéniques? Est-ce qu'il faut manger du bœuf britannique, etc. Pour le chercheur engagé, même dans la science la plus pure, on dirait la plus académique, d'un mot que je n'aime pas beaucoup, mais dans la plus éloignée d'une application immédiate, la question posée est aussi toujours urgente. Mais d'ordinaire, le public a du mal à partager cette urgence. Pourquoi ? Parce que cette démarche de questionnement de la science n'apparaît pas aux yeux du citoyen, soit que la question posée lui semble gratuite, soit que dans le souci de communiquer la science dans son état achevé, on présente plus les résultats apportés par la recherche que les questions de départ. Au contraire, à travers le processus d'expertise, le public, le citoyen, va saisir le moteur de la démarche scientifique, qui est questionnement, distance par rapport à une perception immédiate de la réalité. De plus, dans les problèmes soumis à l'expertise scientifique, par exemple celui de la culture d'organismes génétiquement modifiés, les enjeux scientifiques apparaissent dans toute leur acuité. Le débat d'expertise va réveiller l'intérêt pour des questions qui paraissaient plutôt académiques. Par exemple, la question des échanges de gènes entre plantes dans les peuplements végétaux, et notamment entre plantes cultivées et plantes sauvages. C'est ce que je vous exprimais tout à l'heure avec l'échange de gènes entre les betteraves cultivées. Ah, pardon. C'était pour illustrer simplement cette figure de la femme qui est apparue au cours du néolithique et qu'on retrouve dans des très belles statues en chaux du Moyen-Orient qui datent de 7500 avant Jésus-Christ. Bon. Donc, ces questions d'échange qui sont nées à partir de d'un débat d'expertise révèlent l'intérêt, comme je disais, pour les échanges de gènes entre plantes cultivées et plantes sauvages. Et par exemple, ici, voici un exemple d'étude des échanges génétiques entre le colza et la ravenelle, qui est une plante sauvage très proche du colza. Dans le processus d'expertise, le citoyen découvre le caractère souvent indispensable des modèles scientifiques, qui sont des reconstructions, approches de la réalité, dont les imperfections mêmes appellent la construction de modèles intégrant de nouvelles données. Nous avons vu aussi qu'il y a dans l'expertise, comme dans la science pure, multiplicité des points de vue. Cette multiplicité permet une approche progressive, contradictoire, faite de va-et-vient entre la réalité à explorer et les hypothèses, les modèles qui vont constituer le produit final de l'expertise. Et ce va-et-vient est vraiment constitutif à la fois de la science, mais aussi de la démarche d'expertise. La science doit aussi continuellement s'accompagner d'une sorte d'assaise de l'esprit pour vérifier que son explication des faits, sa théorisation ne sont pas au service d'une idéologie. Et cette assaise de l'esprit, si vous voulez, cet effort de purification de la démarche scientifique me semble favorisé par la démarche d'expertise où ici la théorie élaborée à l'intérieur d'une discipline et utilisée pour prédire une évolution se heurte aux points de vue différents des autres disciplines qui leur permettent de percevoir d'autres points de vue, d'autres aspects de la même réalité et donc de faire d'autres prédictions. De plus, la démarche d'expertise conduit ou devrait conduire à la modestie car l'urgence de la question posée oblige à fournir une réponse malgré toutes les incertitudes de la connaissance. Donc à travers cette démarche d'expertise apparaît la vision d'une science en chemin, une science qui est nourrie de la pluralité des points de vue et qui est sommée, qui est obligée de dire quelque chose tout en sachant le caractère provisoire de sa réponse. Et cette vision de cette science en chemin me semble fournir un bon modèle pour la vie démocratique elle-même. En effet, questionnement, mise de la raison au service de la perception du réel le plus concret, nécessité de la pluralité des points de vue, caractère provisoire des connaissances, voilà des démarches de la démarche scientifique que le processus d'expertise expose aux citoyens et qui peuvent, à mon avis, utilement inspirer le débat démocratique et la vie de la cité. La perpétuelle inquiétude du chercheur, sa quête de nouvelles questions, devraient être aussi des caractères constants de la vie démocratique comme antidote de la satisfaction des puissants. La tentation idéologique contre laquelle la science doit se prémunir lorsque la raison se met à tourner sur elle-même sans se confronter en permanence à la réalité expérimentale, cette tentation est aussi celle de la société civile. Car s'il est un terrain où les édifices idéologiques présentés comme a priori sont en réalité des constructions destiné à justifier une théorie préconçue, c'est bien celui de la vie de la cité. La pluralité des points de vue qui seule permet d'aborder avec fruit des réalités complexes telles que celles soumises à l'expertise scientifique est à l'évidence une nécessité vitale pour la vie démocratique. Pour reprendre la citation de Paul Valéry, un point de vue est toujours faux. Il l'est d'autant plus quand il est imposé de façon plus ou moins subtile par quelque dictature que ce soit. Il faut ajouter ici que les théories scientifiques elles-mêmes peuvent exercer des dictatures. Enfin, de même que dans la démarche d'expertise, il s'agit de donner des réponses en l'absence de certitude, et dans ce domaine aussi, la ville de la cité est aussi le lieu où des décisions sont à prendre dans l'urgence, tout en reconnaissant le caractère provisoire de la réponse apportée. Ainsi, il me semble que peut-être notre perception de la science a changé. La science, à nos yeux, a peut-être changé de rôle, mais elle a toujours un rôle à jouer dans la cité. Après le temps d'une confiance peut-être insuffisamment critique dans la science et dans ses résultats pour apporter des solutions aux problèmes des hommes, on va peut-être découvrir ou redécouvrir que la démarche de la science elle-même a quelque chose à nous apprendre. Merci. À vous.
Bon, maintenant, place au débat démocratique. Vous avez 20 minutes pour pouvoir débattre sur le sujet.
Vous levez après. Tout à fait d'accord avec ce que comment s'appelle-t-il, monsieur, excusez-moi, le professeur a Boitard. Dit. Seulement, je voudrais quand même faire remarquer une chose. J'ai pas vu le... Il y a actuellement ce qu'on appelle des décideurs.
Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ?
Il faut que je me lève ?
Oui, merci. Bon,
oui, d'accord. Bon, voilà.
Il y a ce qu'on appelle actuellement des décideurs, en particulier des décideurs économiques, qui mettent en avant des impératifs qui, à leurs yeux, conditionnent leur démarche, finalement, face à laquelle ils ne peuvent se soustraire. Bon, ben, ça, c'est tout un ensemble, tout un système. Et qui font que, finalement, ce débat démocratique, que nous voulons démocratique, est constamment sapé à la base par, justement, cette... Ce pouvoir, quoi, voilà. C'est tout. Je voulais faire cette remarque et je souligner les limites, justement, de notre débat, nous, face, justement, à ce pouvoir.
C'est un constat. Merci pour votre constat.
Mais je voudrais quand même dire que ces impératifs économiques qu'on nous présente comme des contraintes sont des éléments, de même que les experts apportent les éléments de leur connaissance, et ça doit être pris comme des éléments dans un débat, dans un processus dans lequel on va construire quelque chose, une réponse. Bon.
Oui, bonsoir, monsieur, professeur. J'ai une double question. D'abord, je voudrais savoir s'il n'existe pas. C'est moi, monsieur. Je suis devant.
Ah, pardon.
Je ne me lève pas.
Excusez-moi.
Je voudrais savoir s'il n'y a pas un risque de voir des poulantes résistantes aux produits qui peuvent les soigner.
Hein. Oui.
Bon. Absolument. Et ça, c'est assez emmerdant. Pardon, je suis en kikinant. Et la deuxième question, c'est au sujet des clones.
Ouais.
Est-ce que les clones animaux, ils sont plus résistants que les originaux aux bactéries ?
Alors, les plantes, ce ne sont pas les plantes... Alors, il y a deux aspects dans votre question. Les plantes résistantes dont vous parlez, c'est résistante aux micro-organismes pathogènes. Donc, ce que j'ai essayé d'illustrer dans la diapositive où on voyait l'évolution de la population de pathogènes, c'était en fait les micro-organismes qui, eux, arrivent à surmonter la résistance des plantes. Et ça, c'est évident. C'est la constatation que font tous les épidémiologistes et les généticiens des populations. Quand vous avez des plantes résistantes à une maladie, vous avez une évolution des micro-organismes responsables de la maladie qui fait qu'il arrive à attaquer les plantes, et donc Il y a un combat continuel pour trouver des réponses. Et ce qu'il faut, c'est justement essayer de trouver les réponses les plus stables, donc les processus de résistance qui vont être le moins susceptibles d'être contournés par le micro-organisme pathogène. L'autre aspect auquel on peut penser, c'est effectivement ce qui était l'autre volet de ce que j'ai voulu dire, c'est que, effectivement, vous avez aussi des plantes qui deviennent résistantes à des herbicides, les mauvaises herbes, et là aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut que constater et qui met en cause, qui ne met pas en cause, mais qui diminue l'efficacité de cette méthode d'utilisation d'herbicides totaux. Et là encore, si on veut utiliser ces herbicides totaux pour lutter contre les mauvaises herbes, il faudra essayer de trouver des herbicides contre lesquels les résistances apparaissent le moins facilement ou dont les résistances sont le moins facilement transmises entre les plantes génétiquement modifiées et et les mauvaises herbes. En ce qui concerne les clones d'animaux, je ne peux pas vous répondre.
Oui, je voudrais que vous me rassuriez. Est-ce que, comme l'homme politique peut parfois sembler absorber la responsabilité de l'expert, pouvez-vous me rassurer que quelque part, on peut quand même, il peut avoir la responsabilité dans ce qu'il fait faire ou fait dire à l'homme politique? Merci.
Vous voulez dire...
L'expert, très souvent, les hommes politiques, pour décider, ont besoin...
Des experts.
Voilà, être éclairé. Oui. Mais l'expert peut se tromper et donc conduire l'homme politique à mal décider. Dans
Bien
ce
sûr.
Cas-là, je crains que ce serait un peu trop facile pour l'expert de faire absorber sa propre responsabilité par l'homme politique qui a décidé sur ses conseils.
Mais je pense que le... Enfin, bon, là, vous savez, je ne suis pas un homme politique. Hein. Mais je pense que l'homme politique ne doit pas abandonner la responsabilité qui lui est propre, parce que l'expert donne un avis, mais ensuite, les experts d'ailleurs, et donnent des avis qui peuvent être contradictoires. Et le politique, à mon avis, doit conserver l'entière responsabilité des choix qui sont ensuite faits, tout en sachant que tout le monde, qu'on peut se tromper, et c'est ce que j'essayais de dire, c'est qu'en fait, dans la vie démocratique, on sait bien qu'il faut prendre des décisions, mais que ces décisions, il faut souvent les prendre dans l'urgence, mais il faut savoir aussi que ces décisions ne sont pas infaillibles, et qu'on peut se tromper, mais l'apport de nouveaux éléments doit permettre de progresser dans la construction d'une meilleure décision. Bon, c'est peut-être un peu naïf, mais je ne suis pas un homme politique.
J'ai reçu, monsieur, votre conférence, je suis là,
oui.
comme une illustration de la nécessaire information du citoyen devant exercer au mieux son choix, notamment à l'aide de son bulletin de vote. Et vous nous avez dit qu'il faudrait que chaque groupe d'experts puisse communiquer au public la substance de ces débats afin justement que le public puisse confronter donc décider. Mais là, c'est effectivement une confrontation de points de vue. Mais au sein de chaque groupe d'experts, par exemple les biologistes moléculaires, il y a un débat et dans ce débat-là, ça n'est plus un problème de point de vue, c'est un problème de vrai ou de faux. Au sein, je parle d'un même groupe d'experts. Je pense par exemple quand il s'agissait de faire rouler des chemins de fer, il y avait des experts biologistes qui disaient que les trains ne pourraient jamais fonctionner parce que les gens s'étoufferaient dans les tunnels du fait de la fumée des locomotives. Bon,
d'accord.
C'était un point de vue d'expert.
D'accord.
Bon. Oui.
Les experts ont fait des progrès.
Oui, ils ont fait des progrès. Très bien. Bon, mais si maintenant tous les experts qui participent à ces débats livrent directement leur subvention de ces débats au public, on risque cette fois d'engendrer non plus une clarification, mais au contraire une confusion. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des moyens de se protéger contre ce risque ?
Alors, ce que j'ai essayé de dire, ce n'est pas... quand j'ai fait la distinction dans le mot de point de vue, j'ai dit le point de vue, ce n'est pas une opinion particulière, c'est-à-dire je dis ça parce que ça me chante de le dire... j'essaie quand même de dire quelque chose qui est la vérité. Mais quand je parle de point de vue, c'est une façon complémentaire de considérer une réalité complexe. Et là, je pense que si les biologistes moléculaires, eux, se mettent d'accord pour dire effectivement tel gène, il est constitué de telle séquence d'ADN et que donc on peut penser qu'il va y avoir telle fonction qui va être codée par ce gène... Là, je crois qu'ils vont dire la vérité, mais la réalité des plantes transgéniques, il faudra prendre en considération non pas seulement ce point de vue des biologistes moléculaires qui vont dire leur vérité sur la structure du gène, mais aussi prendre en considération le point de vue des épidémiologistes ou des généticiens des populations qui vont dire voilà comment on pense que va se comporter cette résistance quand elle va être mise en culture, vous comprenez ? Et donc, quand je dis les débats des experts, ce n'est pas des débats entre des gens qui disent le contraire pour le plaisir de se contredire, mais c'est plutôt des gens qui abordent des réalités complexes avec des éclairages différents. Et le biologiste moléculaire ne peut pas donner le point de vue de l'épidémiologiste. C'est pas son domaine de compétence. Donc il va falloir qu'ensemble, ils essayent de dire quelque chose. Et c'est là que je dis que c'est intéressant que le débat lui-même soit porté parce que dans le public, il y a des gens qui vont être plus sensibles à la possibilité de fabriquer des nouvelles plantes intéressantes pour tel ou tel, et puis d'autres qui vont dire « nous, on est plus sensibles au risque que ça comporte sur la stabilité des écosystèmes ». Et tout ça, il va falloir bien à un moment qu'on se mette d'accord sur une opinion, un consensus. Vous voyez ce que je veux dire ?
Monsieur là-haut.
Excusez-moi, je crois que vous avez oublié un aspect important au niveau de l'expertise, qui est celle de l'indépendance de l'expert. L'expert, il est le fruit d'une école, souvent d'une académie, d'une formation, et il a une connaissance et une expérience. Il n'empêche que lorsqu'il s'agit de partager, lorsqu'on lui demande de sortir de son domaine pour après... On évalue un risque social dans la mise en œuvre d'une pratique quelconque, on s'aperçoit que cette indépendance, elle n'est pas totale, ni de sa formation, ni même de sa situation, et qu'on remonte au problème du sang contaminé, ou plus récemment aux experts du CEDRE qui étaient financés par Total, etc., ce qui n'est pas honteux en soi. Je suis sûr que 3 mois avant, on aurait dit qu'ils avaient un financement de Total, on aurait trouvé ça très très bien. Et on s'aperçoit que les avis sont biaisés, pas forcément, pas malhonnêtement, je dirais, mais il y a un grand nombre de biais. Et je crois... qu'il est intéressant peut-être de souligner que le politique ne peut pas s'abstraire, qu'un avis d'expert n'est qu'un avis, et la notion d'expertise est quelque chose de relativement récent. Avant, il y avait des avis, des académies, etc., etc. Mais le politique travaille avec sa passion, avec ses tripes, avec sa sensibilité sociale. Et je crois que c'est peut-être un peu cet aspect-là qui serait intéressant d'aborder.
Je crois que j'ai essayé d'y faire allusion peut-être un peu trop rapidement quand j'ai dit que en citant Pierre-Henri Gouillon, que les experts n'étaient jamais, les scientifiques ne sont jamais de pure neutralité. Et quand j'ai aussi parlé des conséquences qu'avait eu le développement des techniques de la biologie moléculaire sur l'opinion des biologistes moléculaires sur les plantes, les organismes transgéniques, en disant que leur opinion était aussi un petit peu influencée par les liens qui s'étaient tissés au sein d'un complexe scientifico-industriel. Donc, il me semble que tous ces éléments-là doivent effectivement être pris en compte, qui ne sont pas scandaleux, parce que chacun de nous a ses propres liens, a sa propre position dans la société. Mais c'est, à mon avis, c'est pour cela, et là je renvoie aussi à l'ouvrage de Roqueplot. C'est pour ça que l'expertise doit être contradictoire et que les débats des experts ainsi que les positions qu'ils prennent et éventuellement leurs liens doivent être, si possible, connus. Mais ça me fait partie des éléments auxquels le politique doit ensuite être attentif quand il doit prendre sa décision finale.
Il y a quand même un domaine dont je voudrais parler parce que les solutions apportées, jusqu'à présent en tout cas, ont été très différentes de celles que vous évoquiez. C'est le domaine médical. Tout le monde sait que tous les médicaments ont des contre-indications. Donc il y a des inconvénients qui accompagnent les avantages. Et c'est un organisme spécialisé qui s'appelle AMM, qui est en fait... prend la décision de mise sur le marché du médicament, et c'est pas sous prétexte d'un débat démocratique, le grand public qui décide si ce médicament doit être ou non mis sur le marché. Parce que débat démocratique, je veux bien, mais les intérêts entre les hommes sont très différents. Par exemple, dans un pays où il y a la famine, ce qu'ils veulent, c'est des plantes qui résistent, qui sont très résistantes, alors que celui qui n'a pas ce problème sera beaucoup moins réticent sur la mise sur le marché, justement. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on ne minimise pas, grâce aux médias en particulier, le rôle des experts, c'est quand même eux, justement parce qu'ils sont experts, qui, à un moment donné, s'y connaissent le mieux. Et si je reprends ma comparaison avec les médicaments, il est certain que les experts ont eu des avis différents, par exemple en France et en Allemagne, pour tel médicament, et il se trouve que pour tel médicament, ce sont les Français qui ont eu raison, et ça aurait pu être les Allemands. Je veux dire par là qu'il faut quand même tenir compte beaucoup plus des experts qu'on ne le fait, à mon sens.
Oui, mais ce que vous dites... prouve quand même, à mon sens, que le processus d'expertise ne dit pas une vérité absolue, pour les mêmes médicaments, on prend une décision différente. On peut non seulement prendre en considération la mise sur le marché, mais aussi le remboursement par la sécurité sociale, où là, d'autres impératifs que... le simple impératif scientifique, enfin la seule donnée scientifique pure, peuvent jouer un rôle important.
Moi, ce qui me gêne un petit peu dans les expertises, c'est qu'elles ont lieu souvent après qu'un incident ait eu lieu. La démarche scientifique, c'est bien beau, mais quand on sait qu'on va faire des plantes transgéniques, ou quand on sait qu'on a acquis une technique, ne vaut-il mieux pas que le débat d'experts ait lieu avant de prendre une décision de grande envergure avec les conséquences que l'on sait, notamment sur la vache folle, les plantes transgéniques, etc.
Attendez, je crois qu'il faut... je profite de cette question pour établir une distinction que je pense très importante, parce que le problème de la vache folle et le problème des plantes transgéniques est tout à fait différent, si vous voulez. Le problème de la vache folle, c'est un problème de technologie où il y a eu des erreurs d'estimation faites dans une technologie qui était parfaitement, à l'origine, parfaitement maîtrisée. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de découverte scientifique derrière la fabrication des aliments pour bétail. Enfin, pas très, c'était de la technologie. Bon, alors que pour les plantes transgéniques, au contraire, on a des processus d'échange de matériel génétique entre individus qui sont quelque chose d'assez nouveau dans la science. Donc je crois qu'il faut quand même bien distinguer entre les deux aspects. Dans le plan des plantes transgéniques, il faut évaluer effectivement l'utilité de ces techniques par rapport à leur coût, par rapport... à leur durabilité, éventuellement par rapport aux risques pour les problèmes alimentaires, mais ce sont des technologies entièrement nouvelles. Par contre, pour le problème de la vache folle, il s'agissait simplement d'essayer d'évaluer de façon critique une technologie qu'on maîtrisait quand même assez bien. Donc je pense qu'il ne faut pas, trop faire l'amalgame entre les deux situations. Me semble-t-il.
Monsieur, oui. À droite.
Philippe Manchon, expert. Je voudrais dire que, en effet, il y a actuellement, dans les avis des experts qui conseillent les gouvernements, un grand progrès par rapport au fait que les commissions sont faites de multiples experts et qu'il y a un débat entre eux, comme l'a dit le professeur Boitard. Mais je voudrais aussi dire que, à quelqu'un qui a parlé, il n'y a pas que des gens indépendants, entre guillemets, de formation universitaire, qui sont des scientifiques comme le professeur Boitard, et comme moi-même théoriquement, quoique un peu vieux, mais ça fait rien. Eh bien, si vous voulez, il n'y a pas qu'eux. Il y a des experts gouvernementaux venant des ministères. Il y a des experts industriels venant des sociétés industrielles. Et c'est tous ceux-là qui sont réunis au sein des comités d'experts. Il ne faut pas dire que, sous prétexte qu'il y a des experts industriels qui participent à ces comités d'experts, c'est la finance qui pèse sur le comité d'experts. Le comité d'experts est tout à fait libre de ces débats. Mais ce comité d'experts, il va donner, comme l'a dit le professeur Boitard, un avis qui va être communiqué au public. Et c'est là, à partir de là, qu'il devrait y avoir un débat démocratique. Alors, ce débat est-il démocratique ? Vous nous avez parlé de la conférence de 98 à propos des OGM, qui sont évidemment votre sujet. En réalité, je crois qu'elle n'a pas eu beaucoup d'importance. Parce que le débat démocratique, il n'est pas fait par les citoyens indépendants qui écoutent les experts. Il est fait par des citoyens qui sont sous une pression sociale délivrée par les médias. Et aujourd'hui, qu'on parle d'hormones, qu'on parle d'OGM, c'est beaucoup plus la peur de l'ogre américain que le fait scientifique qui est derrière. Le fait scientifique qui est derrière est absolument gommé, en effet, car cette information est biaisée, elle est celle de la mentalité dominante. Alors, il y a des écologistes, je parle des scientifiques de l'écologie, qui en effet résonneront fort bien, mais il y a aussi des écologistes plus ou moins passionnels qui vont peser plus sur le débat démocratique que les écologistes scientifiques. Et je pense que c'est regrettable, mais ça, c'est une mentalité à changer dans le public. Du moment qu'on parle de scientifiques, il y a toujours une suspicion, surtout de soumission aux impératifs économiques. Ces impératifs économiques, il faut en tenir compte. Et en effet, les avis des experts ne sont que des avis. La décision reste politique. Et le politique doit juger à la fois des experts, à la fois de l'avis des experts et aussi des nécessités économiques, écologiques et presque politiques, je dirais. Mais malheureusement, bien souvent, notamment avec le principe de précaution qu'on brandit à tout bout de champ et qui finit par faire des bêtises aussi, eh bien, la pression de l'opinion publique est plus grande sur le politique que la pression, je dirais, enfin, que l'avis des experts, toute discipline d'expertise confondue.
Merci de cette intervention.
S'il vous plaît, je ne sais pas si ça marche. Je voulais d'abord, je suis très contente d'intervenir après.
Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Merci.
Je suis très heureuse d'intervenir après un expert, parce que moi, je ne suis pas expert, je ne suis même pas très experte dans beaucoup de domaines. Et donc, mais par contre, je trouve que dans le débat qui a eu lieu aujourd'hui, d'ailleurs dans les conférences antérieures, c'était un petit peu la même chose, j'ai l'impression que plus on s'approche du politique, c'est-à-dire du démocratique, parce que je ne vois pas comment il pourrait y avoir une démocratie, c'est-à-dire un pouvoir au peuple s'il n'y a pas de constitution de peuple, et il n'y a pas de constitution de peuple s'il y a un simple rassemblement d'auditeurs liés à des simples médias. Donc, dès qu'on parle du politique, on arrive à une pauvreté de vocabulaire, une pauvreté conceptuelle qui est absolument effarante. C'est presque des contes pour enfants. Il y a l'économique et le politique. Ils sont séparés ou pas séparés selon les phrases, mais de toute façon, on ne les pense jamais ensemble. Il n'y a aucune catégorie mentale qui nous permet de les penser ensemble. Et quand on parle de l'agriculture, aujourd'hui, il y a eu quelques intervenants qui ont fait allusion. On est en plein cœur de la violence la plus extraordinaire, des tourbillons d'influence, des concentrations de pouvoir, des redistributions d'une inégalité qui est absolument scandaleuse. Quand on parle, par exemple, de l'état actuel de la médecine et qu'on explique qu'on va pouvoir passer une moyenne de vie de 110 ou 120 ans alors qu'on sait que l'Afrique, elle, est menacée d'une quasi-disparition de la moitié de sa population par le sida, on arrive à des choses qui sont effarantes. Bon. Donc je pense qu'il faudrait, si on veut parler de débat démocratique, commencer, je pense, au niveau d'organisation des séances, quasiment par avoir un petit peu inversé l'ordre des conférences et avoir un tout petit peu avant... oser approcher de l'économique et du politique de façon qu'il ne soit pas une idéologie pour enfonçage. Parce qu'on en est vraiment là aujourd'hui, on n'a plus aucune pensée constituée sur ce terrain-là. Et je ne vois pas comment on pourrait pas se parler de débat démocratique à ce point. Donc, deuxièmement, et ce n'est pas en essayant de culpabiliser, comme l'a fait monsieur, je ne sais pas du tout, une attaque personnelle, hein, je ne vous connais pas bien. Bon, mais ce que je veux dire, dès qu'on parle, dès qu'on essaie de complexifier un petit peu la question du débat, immédiatement pour culpabiliser les quelques-uns qui crient parce qu'ils font du bruit, qui ne sont pas experts, qui ne sont pas suffisamment informés, qui font partie de groupes de pression et qui ne sont pas sérieux, etc., etc. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux crier quand on a mal que se taire. Bon. Donc, on verra bien après comment on peut faire. Donc, par exemple, sur les exemples que vous avez donnés, ça me semble tout à fait important, l'histoire des plantes transgéniques et le fait qu'elles continuent à résister et qu'ensuite les résistants deviennent plus résistants, etc., etc. Moi, j'ai un ami qui est dans le Nord, là, qui a voulu faire de la culture biologique. Il a dû y renoncer au bout de 10 ans parce qu'il y avait tellement de pollution autour de ses champs qu'il a eu beau mettre des barrières entre deux, des friches, etc. Les plantes qui étaient là parce qu'il y avait des produits chimiques sur les champs de ses voisins, elles envahissaient le sien. Il n'a jamais pu faire de culture biologique tellement le sol est empoisonné sur des kilomètres carrés. Et si on continue à faire ça, je pense qu'il faut revenir à quelque chose de tout simple, c'est que peut-être que cette machinerie est folle, mais en attendant, elle fait marcher la machine, c'est-à-dire qu'il y a des fabricants de produits chimiques, que l'industrie fonctionne, et on retrouve là le modèle de notre société dans lequel, peu importe après tout où va la machine, tant qu'elle tourne. Et que ça, si c'est ça les mécanismes économiques dont il faut tenir compte dans la recherche, de transgénique, je crains fort que ça soit aussi bête que ça. Mais c'est aussi, à mes yeux, monstrueux. Quand on voit, par exemple, comment les temps de transport dans les grandes agglomérations augmentent exactement dans la mesure où augmente le nombre de moyens de transport et leur vitesse de déplacement, c'est-à-dire que plus il y a de moyens de transport et plus ils vont vite, et plus chaque citoyen met de temps de déplacement quotidien pour aller de son travail à sa maison, et ça c'est une véritable loi des grandes cités actuelles, on se rend compte qu'en attendant, il y a bien quelqu'un, il y a bien quelque chose qui gagne, c'est-à-dire la machine. Donc je pense que le débat, on est très loin de pouvoir, dans l'état actuel de la position du débat, avoir un débat de fond sur démocratie et recherche.
Je crois qu'il ne faut pas prendre des positions peut-être aussi extrêmes. On peut essayer de progresser dans le débat et vous exprimez un point de vue, vous avez un choix, un système de valeurs qui, je pense, est tout à fait défendable et que vous avez à défendre. Et c'est en confrontant votre système de valeurs avec celui d'autres personnes qui, eux, pensent qu'il faut innover, il faut faire des choses nouvelles. C'est la confrontation de ça. Il faut bien arriver à se mettre d'accord sur le type de société auquel on veut, qui est vivable pour tout le monde. Donc, votre point de vue, il faut le défendre. Mais je pense que le point de vue de ceux qui aussi veulent faire de nouvelles plantes transgéniques, il faut aussi le prendre en considération.
Deux dernières questions. Madame.
Oui, merci. Vous avez tout au long...
Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, oui. Merci.
Vous avez tout au long de votre exposé essayé de faire converger le processus, la décision prise sur la base d'un processus d'expertise, je dirais d'un processus scientifique, et la décision prise sur la base d'un processus démocratique. Vous avez montré qu'il y a des convergences qui se nourrissent l'un l'autre. Alors, bien que j'ai été très intéressée par votre exposé, je n'ai pas du tout été convaincue par ce point de vue. Et il me semble, qui est un peu le fil conducteur de vos remarques, il me semble qu'au contraire, les deux démarches sont totalement antinomiques. Vous avez dit la démocratie, c'est la convergence... qu'est-ce que vous avez dit ? C'est la reconnaissance de points de vue différents. Oui, certes, mais il y a un moment donné où il faut décider. Oui. La démocratie est fondée sur la loi de la majorité.
Oui.
Bon. Alors là, par contre, la décision scientifique est fondée en principe sur la recherche d'une vérité, c'est vous-même qui l'avez dit, ouais. D'une vérité scientifique, bon, qui peut être provisoire, qui sera peut-être fausse à un certain moment, mais qui, en l'état actuel des connaissances, à un moment donné, la vérité. Donc, une décision fondée sur une recherche de la vérité scientifique et une décision fondée sur la recherche d'une majorité. Et l'un et l'autre peuvent être complètement antinomiques. Vous savez très bien que la majorité peut se tromper. Bon, enfin, ça,
mais les scientifiques aussi peuvent
oui,
se tromper.
Oui, enfin, j'ai dit, à un moment donné, on pense quand même qu'il y a une vérité.
Et les majorités se baser là-dessus. Mais les majorités aussi changent.
En tout cas, si à un moment donné, il y a une divergence entre les deux, la question peut se poser de savoir lequel on fait prévaloir. Et alors là, je vous pose la question, quel est le meilleur moyen de choisir? Moi, je partagerai peut-être, enfin, je donne une ébauche de solution. Je pense que si les scientifiques pensent qu'il y a danger, eh bien, il faut laisser les scientifiques décider et pas la démocratie. Par contre, si les scientifiques pensent qu'il n'y a pas de danger, eh bien, je crois que c'est la démocratie qui doit décider. Par exemple, on dit aujourd'hui majoritairement que la viande aux hormones n'est pas dangereuse. Eh bien, je pense que démocratiquement, on doit quand même avoir le droit de manger de la viande sans hormones. Mais je voudrais savoir aussi votre point de vue là-dessus.
Moi, je pense que les scientifiques doivent donner leur opinion. Mais, si vous voulez, ils vont dire quelque chose est dangereux, mais vous savez bien, on peut dire aux gens que quelque chose est dangereux, mais qu'ils vont quand même choisir ce qui est dangereux. Et ils peuvent avoir de très bonnes raisons pour ça. Enfin, l'automobile est dangereuse, tout le monde continue à conduire des automobiles. Bon, le tabac est dangereux, il y a quand même, je ne sais pas combien, une proportion énorme de gens. Moi, j'ai été fumeur, enfin bon, beaucoup de... Bon, donc, je crois qu'il ne faut pas... je trouve que votre position est quand même un petit peu schématique en disant il faut qu'à un moment donné, ce soit les uns ou les autres qui décident. Parce que quand vous dites c'est la majorité qui décide, mais la majorité, elle doit être éclairée. Et à mon avis, le processus d'expertise, le processus de confrontation des points de vue, ça veut dire que la majorité, ça ne va pas être simplement des gens qui disent « moi, je pense ça, point final, et je ne... » Il faut que les gens acceptent, que le citoyen accepte aussi d'argumenter, de rationaliser ses positions, même si c'est des positions qui ensuite vont se traduire par un bulletin de vote. Si vous voulez, je pense que la démocratie n'est pas antinomique de la recherche d'une certaine rationalité. Et cette rationalité, je pense qu'elle est le fruit de l'éclairage différent que peuvent apporter les uns et les autres sur la même question.
Très rapidement, monsieur, une dernière question. Ce monsieur attend. Passez-lui le micro, s'il vous plaît.
La démocratie Pasteur, avec tous les savants contre lui, et il a visé tous les citoyens. Et je crois que Pasteur était complètement isolé. Et ce qu'il faut, je crois, c'est qu'il n'y ait pas de débat démocratique sur la science. Il faut qu'il y ait des scientifiques comme Pasteur. Il y en a de plus en plus. Et il n'y a pas tous les siècles, mais ça, c'est du bluff. Ce n'est pas par le sujet de la date, c'est du bluff. On ne peut pas juger un travail scientifique quand on n'est pas à la pointe. Moi, j'ai des prix Nobel comme professeur, je connais mon cas de biologie moléculaire. Je trouve qu'en ce moment, elle envahit tout d'une façon démesurée. Je parle donc en tant que biologiste et en tant que
scientifique. Non, mais alors attendez, qu'est-ce que vous. Quand vous dites que c'est démesuré, mais que c'est ça qu'il faut, ben, vous êtes un peu contradictoire.
Les médias.
Ouais.
Bon, monsieur, une dernière question et on va devoir...
Moi, j'ai deux petites questions. L'anthropologue des sciences, Bruno Latour, dit dans son dernier ouvrage... L'anthropologue des sciences, Bruno Latour, dit dans son dernier ouvrage que faire de l'écologie politique ? Rien. Mais alors, que faire de l'écologie politique ? Qu'en pensez-vous ? Et ma deuxième question, c'est le philosophe Michel Serres demande, à l'instar des médecins, que les scientifiques prêtent serment à une sorte de serment d'Hippocrate. Est-ce que vous seriez prêt à le prêter ?
Alors, sur la première question, je n'ai pas lu tout l'ouvrage de Bruno Latour, mais j'ai lu une partie qui concernait justement le mythe de la caverne et qui me semblait extrêmement intéressant et allait tout à fait dans le sens du débat de ce soir. C'est-à-dire que quelquefois, les scientifiques ont tendance à penser qu'ils sont l'intermédiaire entre un monde idéal, un monde des idées, et le monde des citoyens qui n'y comprennent rien et auxquels il faut apporter la lumière pour qu'ils puissent enfin prendre des décisions correctes. Bon, et je suis d'accord avec cette analyse. Je pense que le scientifique n'a pas à se considérer comme l'intermédiaire entre un monde idéal. Donc là-dessus, je rejoins Bruno Latour. Et alors, je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire quand il oppose l'écologie. Effectivement, il dit ça dans son introduction. Je ne suis pas allé suffisamment loin dans son ouvrage pour savoir ce qu'il concluait de cette question-là. En ce qui concerne le serment, oui, enfin, mais jurer sur quoi, si vous voulez? Non, mais... Moi, je pense qu'un scientifique, effectivement, doit avoir le culte de la vérité scientifique, tout en sachant très bien qu'il peut se tromper. Je crois aussi qu'il doit y avoir des... Il y a une question très, très grave qui se pose, et moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être débattue. Est-ce que toutes les recherches sont légitimes, ou est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il a certaines recherches dont il voudrait s'abstenir? Bon, je n'ai pas la réponse aujourd'hui là-dessus. Je pense que c'est quelque chose... À un certain moment, des scientifiques ont décidé un moratoire sur leurs recherches, par exemple, au moment de la conférence d'Asilomar dans les années 70, justement sur les organismes génétiquement modifiés. Mais je ne peux pas aujourd'hui dire s'il y a des...
Est-ce que je peux vous poser une question?
Oui.
Il se trouve que je suis expert, et il se trouve aussi qu'il y a quelques années, j'ai fait partie des trois qui ont pris comme position contre les hormones.
Ouais.
Alors que mes 17 collègues, vraisemblablement bien subventionnés par l'industrie pharmaceutique, avaient voté pour. Or, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que le gouvernement français a pris effectivement une position qui s'est totalement ralliée à celle que les trois minoritaires avaient voulu faire passer. Mmh. Et il me semble bien qu'il y a un problème énorme au niveau de l'expertise. C'est le degré, effectivement, comme un certain nombre de personnes l'ont dit, d'indépendance. Or, si vous êtes dans le public, si vous voulez être un expert indépendant, il faut que vous payiez votre ticket de métro, votre billet de train, il faut que, effectivement, vous vous débrouillez pour aller défendre votre point de vue scientifique. Tandis que si vous êtes subventionné par des moyens souvent très détournés du reste, à ce moment-là, vous n'avez plus aucun problème. Et malheureusement, j'ai un peu peur qu'en France, le débat démocratique de l'expertise, elle passe un petit peu par ces points de vue strictement financiers et qui, malheureusement, entraîne un débat non démocratique parce que les chances, les égalités ne sont pas les mêmes.
Merci.
Merci de cette intervention. Et
merci,
je pense
nous sommes obligés de respecter la règle du jeu que j'ai énoncée tout à l'heure. On doit quitter les lieux. Et merci à Pierre Boitard.